Avertissement. Cet épisode du Pas trop podcast parlera d'un sujet sensible. Nous aborderons le thème du suicide en compagnie d'une experte qui travaille auprès de l'organisme Je Vis. L'objectif de cette capsule est dans un but éducatif. Nous souhaitons vous permettre de mieux comprendre, de repérer les signes avant-coureurs et d'aller chercher l'aide pour vous ou vos proches.
Si vous avez besoin d'aide, voici des ressources disponibles. 1-866-APPEL ou 1-866-277-3553. Je vis au 819-564-1354. Info sociale 811 option 2. Suicide.ca pour du clavardage. Et Jeunesse J'écoute, jeunessej'écoute.ca.
Bonjour et bienvenue au podcast « Pas de trouble de la croisée des sentiers ». Je suis ici ce matin avec Léonie, superviseure clinique chez Je Vis, et puis avec mon collègue Guillaume.
Allô!
Allô! Donc, je vous rappelle que moi, c'est Caroline, et on est très heureux de vous accueillir ce matin pour parler d'un sujet qui va être un petit peu plus difficile. D'ailleurs, on va mettre un avertissement, au début du podcast, puis on va vous donner toutes les ressources disponibles si jamais ça vient vous chercher. Donc, on va parler ce matin de suicide avec notre experte de chez Je Vis.
Bonjour!
Donc, j'aimerais ça un petit peu, là, peut-être, Léonie, si tu peux te présenter, offrir, nommer ce qu'il y a comme offre de service là, chez Je Vis, puis ce que vous faites.
Oui, tout à fait. Ben moi, en fait, c'est Léonie. Je suis superviseure clinique là, chez Je Vis, le Centre de prévention du suicide de l'Estrie. C'est sûr, concrètement, moi, ce que je fais, je suis en charge de l'équipe d'intervention. Donc, c'est moi qui m'assure là, que les intervenants ont du support dans leurs interventions quand ils en ont besoin, principalement. C'est surtout ça l'essentiel de ma tâche. Je dirais qu'au niveau des services de Je Vis, plus pour la population, dans le fond, on a des services pour trois clientèles. Donc, on a pour les personnes qui ont des idées suicidaires, on a pour les personnes qui vivent un deuil par suicide et on a pour les proches d'une personne qui a des idées suicidaires. Comment ça fonctionne chez Je Vis maintenant? Parce qu'autrefois, on avait la ligne d'intervention. Maintenant, dans le fond, cette ligne-là, nous, on ne l'a plus. Là, ça a tout été transféré à Info Sociale qui s'occupe de la 1-866-APL. Donc, chez Je Vis, on s'occupe principalement des suivis en face-à-face et c'est principalement des suivis en face-à-face individuels là, qui se donnent chez Je Vis pour les trois là, clientèles qu'on a dans le fond.
Donc, quelqu'un qui voudrait faire affaire avec Je Vis devrait passer, si je comprends, par Info Sociale, un message d'appel qui serait transféré par la suite?
Bonne question. En effet, je vais clarifier ça. Donc, en fait, on avait notre numéro de téléphone avant de la ligne d'intervention qui était 819-564-1354. Ce numéro-là, il existe encore, mais maintenant, c'est comme notre porte d'entrée pour faire une demande de service. Donc, okay. C'est plus une ligne d'intervention sur laquelle il y a un intervenant qui répond là, immédiatement. Donc, la personne qui appelle pour avoir des services, là, quand elle appelle sur ce numéro de téléphone-là, elle va tomber sur une boîte vocale qui va l'inviter à laisser ses coordonnées, son nom puis son besoin. Puis, chaque jour, il y a un intervenant chez Je Vis là, sur nos heures d'ouverture qui est attitré à écouter les messages vocaux le plus rapidement possible et relancer les gens. Donc, c'est sûr qu'on vient un peu prioriser là, les demandes, mais normalement, les gens peuvent s'attendre à être relancés là, dans un délai de 24 à 72 heures. Généralement, ça se fait quand même relativement rapidement. Là, Puis, il y a un intervenant, dans le fond, qui va rappeler la personne, qui va prendre contact avec elle, évaluer tous les besoins, puis après ça, faire une offre de service et ou des références là, aux besoins.
Super, merci. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, là, on parle de suicide, on nomme le mot, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de suicide? C'est quoi les... qu'est-ce qu'on peut observer peut-être chez quelqu'un qui a des idées suicidaires ou comment ça se traduit là, concrètement?
Mm-hmm. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Puis, il y a beaucoup d'indices de détresse qui peuvent... qui sont associés au suicide. Entre autres, tu sais, des fois, il peut y avoir des gens qui vont avoir des messages verbaux quand même assez clairs ou des fois un peu plus foulou. T'sais, il peut y avoir des gens qui vont littéralement dire « ben j'ai envie de me tuer ». Il y en a d'autres qui vont dire « c'est la dernière fois que tu me vois ».
Okay.
Ça, c'est un message qui est plus flou, mais ça peut des fois sous-entendre quelque chose qui a besoin d'être clarifié.
C'est difficile à décoder aussi, hein, ouais. Quand même, quand on est un proche, mettons. Là.
Tout à
okay,
fait.
OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, on se fie un peu sur le fait qu'on connaît la personne, puis on se dit, ben là, non, elle fera pas ça. T'sais, on a un peu des fois des idées préconçues, là, en tout cas.
Oui, tout à fait. Ben, puis Dans le fond, c'est là, elle est là l'importance de toujours clarifier quand on a un doute, quand on n'est pas certain. C'est ça qui arrive, c'est que ça fait peur de parler de suicide, c'est vraiment un tabou, alors que c'est quelque chose qui peut toucher n'importe qui. Il y a des façons de venir clarifier ça aussi, là. Entre autres, je peux m'avancer sur le sujet un petit peu plus si vous voulez.
Ben oui.
Mais tu sais, ça, c'est pas obligé non plus d'être un message verbal. T'sais, on peut des fois voir que notre proche, il va de moins en moins bien, il pleure souvent, il s'isole, il est plus irritable. Tout ça, c'est des indices. T'sais. Ça veut pas dire que la personne a des idées suicidaires, mais ça se peut. Dans tous les cas, ça vaut toujours la peine de poser la question à la personne directement. Donc, si la personne a tenu des propos qui étaient inquiétants et qui ne sont pas très clairs et qu'on pense peut-être qu'elle a des idées suicidaires, bien, nous, ce qu'on suggère, c'est de toujours de poser la question directement à la personne. Donc, de lui demander, tu sais, quand tu me dis que c'est la dernière fois que je te vois, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que tu as l'intention ou envie de t'enlever la vie? C'est vraiment comme ça qu'on suggère de poser la question. Donc, d'utiliser les vrais mots. Donc, est-ce que tu as l'intention ou envie de t'enlever la vie? Est-ce que tu as des idées suicidaires présentement? Est-ce que des fois, tu penses à te tuer? Est-ce que tu penses à te tuer maintenant? C'est des questions qui font peur parce que des fois, on n'est pas toujours prêt à recevoir la réponse. Puis en même temps, c'est la meilleure façon d'obtenir une réponse qui est 100% claire.
Oui, puis on l'a fait, nous, là, ici, là, on est plusieurs intervenants qui l'ont fait, là, la formation Je vis, pour intervenir auprès de la personne suicidaire. Puis je pense que c'est une des choses que pour vrai, j'ai vraiment appris à ce moment-là, de dire les vraies choses, d'utiliser les bons mots.
Ouais.
À quel point ça peut faire toute la différence, de pas dire bon, aller au ciel et tout ça, là, tu sais, c'est imagé, puis c'est ça, c'est un sujet tellement cru, tellement vrai, puis qui fait peur, qu'on a le goût d'adoucir un peu, là, en utilisant des mots plus beaux, mais
moins forts, moins forts.
C'est rough, là, la mort, le suicide, c'est des mots difficiles à dire, là.
C'est vrai. Puis,
excuse-moi. Mais... c'est quelqu'un qui pense, mettons, à la mort, puis tu pourras me reprendre si c'est pas le cas, mais tu ne vas pas nécessairement penser à passer à l'acte ou à se suicider, mais peut avoir des idées passées de mort. Y a-t-il une distinction entre vraiment l'idée, l'envie de se suicider, puis des idées passées de mort?
Oui. Ben, dans le fond, c'est sûr que ça reste que c'est toujours un indice de détresse pareil important. C'est sûr que il y a des gens, des fois, qui vont dire ben j'aimerais ça pas me réveiller. Mais ils vont nous nommer qu'ils n'ont pas l'intention de s'enlever la vie, puis ils n'ont pas non plus le désir de s'enlever la vie. Donc là, on parle peut-être moins de suicide dans ce temps-là ou d'idées suicidaires. N'empêche encore une fois que c'est quand même un indice de détresse qui est très important puis qu'il faut prendre au sérieux. Fait que nous, c'est sûr que quand on parle avec une personne qui a ce discours-là, on va prendre ça au sérieux puis on va quand même évaluer les besoins, référer la personne au bon endroit. Dans ce temps-là, c'est peut-être un petit peu moins nous la bonne, la meilleure ressource en fait là, pour aider cette personne-là. Oui, ça répond-tu à ta question?
Oui, c'est bon.
Mais puis ça me fait penser, puis je pense que c'est quelque chose, c'est un point que je trouve vraiment important. Puis que je vais revenir souvent à la formation donnée par Je vis là, pour les intervenants parce que c'est mon expérience, puis c'est quand même une bonne formation là, sur 3 jours.
Oui, c'est la formation accréditée là,
donnée
par la QPS. Là,
ouais. Oui, fait que c'est vraiment une bonne formation là, à avoir. Puis c'est ça, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Là. C'est Sylvie, je pense, qui la faisait. Fait que bonjour Sylvie. Je l'avais vraiment apprécié. En fait, c'est juste si quelqu'un nomme le suicide, nomme ne pas vouloir se réveiller. Même s'il n'y a pas nécessairement un grand plan établi, qu'il n'y a pas le moyen choisi, que bon, il y a peut-être un petit peu d'espoir quand même, ça démontre une détresse.
Tout à fait.
Fait que peu importe, tu sais, c'est pas nécessairement un risque suicidaire là, imminent, ça démontre une détresse chez la personne. Ça démontre que la personne, au niveau de sa santé mentale, ben ça va pas bien. Il y a peut-être un traumatisme, il y a peut-être un stresseur qui est tout le temps présent dans leur vie, une anxiété qui n'est pas capable de se débarrasser. Ça démontre une détresse.
Ouais.
Puis, ça me fait penser là, aux gens qui disent que je pense peut-être plus au niveau jeunesse, au niveau des adolescents, de chercher de l'attention. Je pense que c'est rare, les jeunes qui. Puis peut-être qu'on peut en parler, là.
Oui.
Excusez-moi, ça m'a pas peu dans la tête, là. Fait que j'ai changé de sujet un peu, là.
Non, c'est parfait.
Mais c'est ça, le chercher l'attention chez les jeunes, j'ai l'impression que c'est assez rare. Ça va plutôt être une manière de dire « Hey, ça va pas.
Mm-hmm. »
Puis j'ai besoin qu'on m'entende, puis j'ai pas trouvé de bon moyen plus sain, si on veut, mm-hmm. de demander de l'aide. Fait que je le fais de cette manière-là. Mais tu sais, ça veut dire quelque chose. Là.
Ouais. Ben, j'ai envie de dire que tu as tout compris. Mais oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le discours, même chez les adultes, en fait. Là, il y a des adultes, des fois, qui vont nommer qui ont envie ou l'intention de s'enlever la vie, puis les gens directement vont penser que c'est de la manipulation ou une façon d'avoir de l'attention. Alors qu'en réalité, tu sais, mettons que là, on se ressente plus sur les jeunes, comme tu disais, Guillaume. Ce que nous, on nomme, c'est que c'est toujours un indice de détresse parce qu'un jeune qui va bien, il ne va pas dire qu'il a envie de se tuer pour avoir l'attention de toute façon. C'est un indice de détresse. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, il faut le prendre au sérieux. Souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu, il y a une détresse qui est présente, puis le jeune ne sait pas comment l'exprimer, ne sait pas comment répondre à ce besoin-là. Donc, ça demande de prendre un temps avec ce jeune-là, d'explorer ce qu'il y a derrière les propos, valider si en effet, il y avait quand même des idées suicidaires ou non. Puis qu'il y ait des idées suicidaires ou non, ben il y en a un besoin, il y en a une détresse qui vient de quelque part, donc ça nécessite de s'y attarder puis de regarder c'est quoi l'aide qui peut être offerte. Puis aussi d'aider ce jeune-là à exprimer de façon plus claire et, on va dire, mettons, adéquate son besoin pour la prochaine fois, pour qu'il soit certain qu'il soit répondu correctement. Parce que souvent, ça arrive qu'on a des jeunes qui, par exemple, quand ils vivent, mettons, beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, ça s'accumule, puis là, ça explose, ils vont dire « je veux me tuer », mettons. Alors que c'est pas vraiment ça leur besoin. Leur besoin, c'est j'ai vraiment besoin d'être toute seule puis que vous me laissiez tranquille, mettons. T'sais. Fait que ça vaut la peine qu'on les outille à ce moment-là pour être capable de le nommer parce que si le jeune dit je veux me tuer, ben là, toutes les choses qui vont se mettre en place, c'est des interventions liées à la prévention de suicide, mais c'est pas de ça qu'il y a de besoin, dans le fond. Fait qu'on veut vraiment les outiller pour qu'ils soient capables de nommer leurs besoins directement, clairement, pour avoir l'aide qu'ils ont besoin. Là.
Puis tu nommes, dans ce que tu nommes aussi, c'est bien, tu dis effectivement, ils vont nommer, ils vont dire mm-hmm. que, mais est-ce qu'il y a des signes aussi qu'on peut observer qui ne seront pas nécessairement nommés, autant au niveau jeunesse qu'adulte, mais tu sais, est-ce qu'il y a des choses que, disons, moi, j'étais un membre d'entourage, j'étais un parent, ou qui pourraient mettre une petite puce à l'oreille de dire, hey, c'est vrai que j'ai exploré peut-être mm-hmm. ce côté-là, tu sais, des suicidaires ou.
Oui, sans nécessairement nommer directement qu'ils veulent s'enlever la vie.
Exactement, oui.
Ouais. Encore une fois, il y a tous les indices un peu plus dans le comportement, mettons, pour les jeunes, les comportements qui vont changer, s'isoler, pleurer plus souvent. Il y a aussi une des choses qu'on peut voir sans dire clairement qu'on veut s'enlever la vie, des fois, un intérêt soudain pour la mort ou le suicide, ça peut aussi mettre la puce à l'oreille.
Est-ce qu'il y aurait les comportements à risque aussi, peut-être? Si, mettons, on voit que notre jeune, mm-hmm. je sais pas, se met plus en danger dans différents...
Tout à fait. On pourrait le voir. Tu sais, dans tous les cas, ça reste un indice de détresse. Puis dès qu'on en voit, ça vaut la peine d'aller explorer. Là. Même chose pour les adultes. Puis ce qui arrive avec les adultes aussi, là, qu'on voit, c'est des fois, tu sais, mettons, se débarrasser de des objets qui étaient vraiment significatifs pour eux, ça peut en être un. Ou, là, j'essaie de me rappeler, là, tous les indices de détresse, il y en a tellement, mais tu sais, tout ce qui est s'isoler. On a aussi la notion d'événements, tu sais, un peu plus moment critique qu'on va appeler, mais tu sais, des événements importants qui peuvent arriver, qui pourraient faire en sorte que la personne a des idées suicidaires. Puis, tu sais, je pense à, par exemple, une rupture amoureuse, autant chez les jeunes que principalement aussi chez les hommes, là, que ça, souvent, ça les rend plus vulnérables. Perte d'emploi, perte d'argent, décès d'une personne vraiment importante pour nous. Tu sais, tout ça, sans que ce soit des j'ai la misère un peu avec mon micro.
On l'entend bien encore, ça.
Oui, OK, parfait. C'est que c'est des événements qui sont très souffrants, qui emportent beaucoup de changements puis de stress qui peut faire en sorte que les idées suicidaires apparaissent chez une personne là, qui est déjà un peu plus vulnérable à ça. Oui.
Super. Puis, oh, j'ai perdu mon idée, moi aussi. Ah oui, tu sais, par exemple, justement, parce que là, on parle beaucoup de, tu sais, on va aller ouvrir la porte, on va en parler puis on va sensibiliser. Mais quelqu'un, tu sais, nous, on a reçu la formation comme Guillaume nommait, toi, tu mm-hmm. travailles chez Javi, fait que tu sais comment accueillir la personne et tu sais comment la référer et quoi faire mm-hmm. suite à ça. Fait que non seulement, je pense que les gens ont peur de recevoir
ouais.
parce qu'ils ont peur d'être pris avec la patate chaude, si je peux le nommer comme ça, tu sais, puis pas savoir quoi faire après. Fait que hey, la personne, elle m'a confié ça, puis là, crime, c'est... Je suis pris avec ça, puis je sais pas quoi faire, puis je veux pas que ça soit de ma faute si je l'ai pas aidé, ou bon. Fait que, tu sais, du moment où on a un doute, ou que la personne nous confie, ou que qu'est-ce qu'on fait par la suite en tant que proche, ou en tant que famille, pour aider la personne, puis tu sais,
ouais.
dans le contexte aussi que la personne va peut-être te nommer ça parce qu'elle t'a fait confiance, mais qu'elle veut pas nécessairement aller dans un service, là.
Mm-hmm. Il y a comme beaucoup de choses que j'ai envie de dire par rapport à ça. La première, c'est quand on pose directement la question à quelqu'un, tu sais, oui, ça fait peur, En même temps, ce que ça va envoyer comme message, c'est qu'on est prêt à recevoir la réponse, puis qu'on est solide, puis il y a plus de chances que la personne, elle s'ouvre auprès de nous. Fait que déjà là, ça, tu sais, pour une personne qui a des idées suicidaires, d'en parler avec quelqu'un, premièrement, c'est très protecteur pour elle d'être capable de s'ouvrir à une personne en qui elle a confiance. C'est ce que je voulais dire. J'ai oublié ma deuxième idée. Par la suite, en tant que proche, si on a ce genre de propos-là, tu sais, mettons, j'ai ma sœur, on va dire, qui me dit oui, j'ai des idées suicidaires. Bien, c'est sûr que la première chose que j'ai envie de dire, c'est de valider, valoriser que la personne, elle nous en parle. T'sais, ça peut tout simplement être de lui dire, hey, pour vrai, ça doit vraiment pas être facile de vivre avec ça en ce moment, d'oser m'en parler, puis je suis vraiment contente que tu m'en parles puis que tu restes pas toute seule avec ça.
Merci de me faire confiance
Merci de
aussi.
me faire confiance puis de m'en parler. Puis tu sais, souvent les gens, ils savent pas quoi faire après, ils sont comme, oh mon Dieu, je fais quoi avec ça, tu sais. C'est sûr que de votre côté, tu sais, en tant que proche, si vous ne savez pas quoi faire, demandez à la personne comment elle va être aidée dans cette situation-là, tu sais, parce que la réalité, c'est que tout le monde ne veut pas être aidé de la même façon, là. Il y en a qui veulent juste qu'on les écoute quand ils parlent, puis qu'on les valide dans comment ils sentent. Il y en a d'autres qui veulent des conseils full concrets par rapport à ce qu'ils vivent comme difficulté. Il y en a qui veulent juste qu'on leur change les idées, puis qu'ils vont dire, ben moi, sérieux, j'ai pas envie de parler de ce qui va pas, mais comme j'ai besoin qu'on fasse quelque chose pour penser à d'autres choses, puis avoir du plaisir. C'est super différent d'une personne à l'autre, donc c'est important de le demander à la personne.
J'ai goût de rajouter que l'écoute, juste d'offrir une écoute à quelqu'un, je sais que c'est un peu cliché, là, mais en travaillant en relation d'aide en général, juste le fait que la personne ait finalement décidé d'en parler, de sentir écouter, juste ça peut tellement apporter un bien-être puis un début là, de réconciliation avec soi-même, là. Fait que juste l'écoute, juste ça, vous faites une bonne job si vous avez écouté quelqu'un qui s'est confié à vous, là.
100% une écoute sans jugement, puis juste d'accueillir la personne dans ce qu'elle vit,
De rester prêt pour elle puis disponible, puis de lui nommer peut-être, hey, t'sais, si à un moment donné ça revient, que tu en as beaucoup d'idées super ou que tu penses à ça, ben, n'hésite pas à m'en parler. Puis est-ce que, si je vis offre des services justement pour, tu sais, moi, par exemple, je suis un proche, je reçois cette information-là, puis j'ai aucune idée de quoi dire, de comment faire, ou est-ce que je peux appeler, par exemple, je vis ou un service quelconque pour dire, écoutez, je suis une personne proche de quelqu'un qui m'a parlé d'idées suicidaires, puis j'aimerais avoir des conseils sur comment l'outiller, comment l'aider, parce qu'elle ne souhaite pas aller, ou c'est pas nécessairement une urgence de service ou.
Oui, tout à fait. Donc, il y a toujours la 1-866 appel, qui est la ligne d'intervention prévention du suicide provincial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle, dans le fond, on appelle là-dessus. Il y a une réponse immédiate d'un intervenant. Puis, en tant que proche, c'est aussi une bonne place où appeler là, pour avoir de l'aide puis des outils.
C'est bon de savoir ça quand même, parce que tu sais, j'ai l'impression que les gens vont peut-être penser qu'il faut 100% que la personne soit en crise à ce moment-là, puis qu'il faut pas que ça, tu sais, faut que ce soit la personne qui appelle elle-même aussi. Fait que c'est bon à savoir là, que tu peux juste appeler pour avoir des bonnes idées là, dans le fond là, sur comment agir, là.
Puis je pense que tu sais, le mot d'ordre aussi, c'est de pas rester seul avec ça. T'sais. Si on a cette
Exactement.
confiance-là, effectivement, d'aller chercher les bonnes ressources, d'aller chercher. C'est correct de ne pas savoir comment réagir. C'est normal, en fait. Là, t'sais, nous-mêmes, t'sais, Guillaume l'a dit, j'ai appris des choses. Moi aussi, j'ai appris des choses dans la formation. Puis on est intervenant. On n'a pas la réponse pour tout. T'sais. Fait que c'est normal de ne pas savoir quoi faire, mais de ne pas rester seul, de ne pas rester avec la pression de hey, t'sais, est-ce que j'ai bien repéré? Est-ce que je l'ai aidé? Est-ce qu'il va passer à l'acte puis je ne l'ai pas vu venir? Et d'aller s'outiller avec des experts là, qui vont vraiment nous guider.
Oui, puis je trouve qu'en tant que proche, une des choses, voyons, j'ai de la misère. une des raisons pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'appeler, ben en fait, deux raisons. C'est la première, c'est qu'en appelant un intervenant, cet intervenant-là va pouvoir poser des questions spécifiques puis avoir une idée de est-ce qu'on s'inquiète en ce moment pour la sécurité de la personne. Va pouvoir outiller le proche à aller poser des questions aussi pour avoir un peu plus d'informations, pour être capable de faire, d'avoir un regard le plus juste sur si on s'inquiète ou non. Mais il y a aussi qu'en tant que proche, la réalité, c'est que c'est pas la responsabilité d'un proche d'assurer la sécurité d'une personne qui a des idées suicidaires, alors que des fois, les gens vont le faire, puis c'est une grande, grande pression, puis c'est très, très stressant. C'est qu'en partageant ça avec un intervenant, ben c'est un peu de partager, tu sais, cette charge-là, ce stress-là avec quelqu'un d'autre, puis de le remettre entre les mains de quelqu'un qui va avoir les compétences pour évaluer la situation, puis offrir des services référés, savoir quoi faire dans le moment.
Nous, on compare souvent la santé mentale, tu sais, à la santé physique. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as mal quelque part, puis que tu juges que peut-être ça pourrait être un cancer ou une maladie, tu sais, toi, t'es pas outillé pour l'évaluer.
Exact.
Ma santé mentale, c'est pareil. Tu sais, ça reste que l'intervention avec une personne au risque suicidaire, une intervention de 3 jours, il y a des spécificités, il y a des choses à évaluer. C'est pas juste, ah, elle m'a confié qu'elle avait des histoires ou qu'elle y pensait à l'occasion. Ou, tu sais, c'est des grilles, c'est des catégories, c'est très spécifique. Effectivement, on n'a pas la responsabilité citoyenne, mettons, de faire cette évaluation-là concrète. Ça revient aux gens qui sont formés, tu sais, pour le faire. Fait qu'on réfère. Puis, tu sais, il n'y a jamais de mauvaise raison pour référer. Dans le fond, dès qu'on a un doute, tu sais, on peut appeler quelqu'un comme je disais, en hommage, je suis un proche, puis je voudrais de l'info.
Ouais, puis pour vrai, rendu là, tu sais, dès qu'on a un doute ou qu'on ne sait pas trop quoi faire dans la situation, j'encourage toujours d'appeler sur la 1-866 appel, puis de ne pas attendre parce que. J'en reviens un peu à ça, là, mais je trouve que c'est important. Tu sais, des fois, encore une fois, je trouve que les gens, ils attendent très, très longtemps, tu sais, avant de poser la question directement pour le savoir ou des fois avant d'agir, tu sais. Alors que, tu sais, si on veut agir en prévention, ça veut dire de poser la question même si on n'est pas sûr à 100%, puis d'appeler une ressource même si on n'est pas certain encore une fois à 100%, tu sais. C'est correct de le faire, puis je pense que c'est comme ça qu'on reste dans la prévention le plus possible, là.
Oui, puis en ouvrant la porte, en posant la question, la personne va nous dire soit comme hey, bon, qu'est-ce que tu fais là? Je pense pas à ça, puis là, tu vas être rassuré, tout est beau, puis dans la meilleure, pas dans la meilleure, mais dans l'autre côté, en fait, c'est que la personne va dire hey, oui, merci de l'avoir posé, va être contente justement d'avoir quelqu'un à se confier, parce que ça fait peut-être un bout de temps qu'elle est seule avec ça, puis qu'elle sait pas comment le nommer, tu sais.
Oui, puis pour vrai, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est généralement quand on pose la question directement, tu sais, souvent les gens, ils sont comme, ben là, elle peut mentir, elle peut pas me dire la vérité, tu sais. Souvent, on va avoir la vérité. Plus souvent que l'inverse, là, la personne va être honnête quand on lui pose la question directement. Ouais.
Quand tu y penses, c'est tellement vulnérable, comme c'est tellement direct comme question que je pense que si tu connais quand même bien la personne, c'est assez facile de voir un peu sa réaction puis à quel point ça l'a touché peut-être. Ou si au contraire, justement, là, comme si ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. T'sais, je pense que ça se sent quand même, là, si on peut l'utiliser, là. Puis après ça, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, au bout du compte, une fois que tu as posé la question directement, le plus clairement possible, en expliquant que tu t'inquiètes pour cette personne-là, puis que tu veux son bien, puis que tu veux l'aider, puis que tu es là pour l'écouter, si la personne te dit non, si la personne te dit non, tout va bien pour vrai, là, puis gros sourire, puis que elle joue un peu le jeu, ta responsabilité, tu sais, est faite, là.
Ben en effet, puis tu sais, ça, c'est quelque chose des fois qu'on oublie, mais la responsabilité d'aller chercher de l'aide puis ou de l'accepter quand elle est offerte, elle revient à la personne en détresse qui a des idées suicidaires.
Je trouve que c'est super touché comme sujet, mais ça reste que c'est ça quand même. Le peu importe t'es qui, si ça va pas bien, on a une responsabilité envers nous-mêmes, envers notre bien-être.
Oui, puis tu sais, mettons que tu as des idées suicidaires, je peux bien te tendre la main, mais ultimement, si tu décides de pas la prendre, je peux rien faire de plus. T'sais, mon contrôle, il s'arrête là, dans le fond. Puis comme tu dis, ma petite... J'ai comment je peux dire ça? J'allais dire responsabilité, mais tu sais, encore là, c'est pas tant une responsabilité plus qu'on encourage les gens à le faire, en réalité, tu sais.
Effectivement.
C'est écrit nulle part que c'est une responsabilité non plus, là.
Non, puis tu sais, sans en faire une obsession, là, tu sais, je veux pas que les gens, mettons, les parents se mettent à... ou les proches se mettent à vraiment observer, là, à minutie, tous les petits symptômes, tout, mais c'est, je pense qu'on le voit aussi quand quelqu'un, effectivement, commence à moins bien aller, dort moins bien, commence à délaisser certaines activités qu'il faisait par le passé, ou tu sais, quand il y a des événements qu'on le sait qui peuvent être plus stressants ou... Puis la problématique du suicide, tu me corrigeras aussi si je me trompe, mais tu sais, effectivement, une personne peut avoir une période où elle va penser plus au suicide, ça va se résorber. Puis ça se peut que 3 ans plus tard, elle vive une période qui est similaire, puis que là, tu sais, fait qu'il n'y a pas de maximum de fois pour demander, comme il n'y a pas non plus de dire qu'il ne faut pas faire une obsession sur « Hey, tu sais, il va pas bien, puis... »
Non, tout à fait. Puis, tu sais, mettons pour rebondir ce que tu disais, là, en effet, il n'y a personne qui. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est très, très rare quelqu'un qui est suicidaire 100% du temps. Tu sais, la souffrance, c'est quelque chose qui fluctue. Puis, même quand on ne va pas bien, il y a des moments où on va quand même. Il y a des moments où c'est pire, puis des moments où c'est moins pire. Là. Où est-ce que je m'en allais avec ça? dans tous les cas, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui peut se reposer aussi, tu sais. Puis ça se peut que si, mettons, moi j'ai des idées suicidaires une journée, ben dans 2 semaines j'en ai pas, puis finalement dans 3 mois ça revient. Donc c'est correct pour un proche de reposer la question quand il se pose la question. Ouais,
effectivement.
Puis peut-être aussi, parce qu'on avait parlé pour les proches tantôt de la 1-866 appel, mais je voulais juste recompléter par rapport à ça que, en effet, ils peuvent aussi appeler chez Gévi parce que les suivis pour les proches sont faits pour les outiller, à savoir comment accompagner la personne auprès de qui leurs proches, finalement, qui ont des idées suicidaires, mais aussi comment eux, ils peuvent gérer leur stress là-dedans et comment ils peuvent prendre soin d'eux là-dedans. Donc, très pertinent de nous contacter pour un suivi.
Je ne sais pas si on en a parlé, je crois que non, mais il y a des lignes téléphoniques et aussi des services, disons, anonymes peut-être, ou texto, ou courriel, il y a d'autres services peut-être, si on n'aime pas ça par le téléphone ou qu'on est gêné d'appeler, ou bon, c'est quoi les autres services disons, qui sont disponibles?
Oui, ben, en fait, les services disponibles plus au niveau du clavardage, là, il y a toujours sur suicide.ca où les gens peuvent aller. Suicide.ca, c'est super bien fait en plus, puis tu sais, pour vrai, il y a tellement d'informations sur ce site-là, j'encourage toute personne qui ont soit des idées suicidaires, ont un proche qui a des idées suicidaires ou qui vivent un deuil par suicide. Il y a vraiment plein d'informations et d'outils sur ce site-là. Et entre autres, on peut clavarder avec un intervenant. Là, on se connecte. Ça peut être anonyme, donc on n'est pas obligé de nommer qui on est. C'est 24/7 aussi, ce clavardage-là en ligne. C'est super bien fait pour vrai. Là,
Puis ça m'apporte à penser à peut-être une dimension que je n'ai pas parlé, mais parce qu'on est beaucoup, là, en tout cas, je pense aux jeunesses, là, qu'on est de plus en plus dans les réseaux sociaux, on est de plus en plus dans les jeux vidéo. Tu sais, quelqu'un qui va lancer un appel à l'aide sur une plateforme de jeu, qui va. Mais tu sais, parce qu'on est appelé aussi à parler avec plein de gens qu'on ne connaît pas. Ou, dans les... Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux ou que par texto sur Facebook, qu'on connaît peut-être ou qu'on n'a pas la possibilité nécessairement d'aller valider auprès d'elle?
Tout va dépendre de qu'est-ce que c'est la demande d'aide. Tu sais, je peux passer d'un exemple à un autre, là, mais si on a quelqu'un qui se connecte sur Facebook puis qui écrit « c'est fini, adieu tout le monde, bien content de vous avoir connu », puis qu'on s'inquiète, c'est sûr que nous, ce qu'on suggère dans ce cas-là, si on n'est pas capable de rejoindre la personne, c'est de faire appel à ce moment-là au service d'urgence parce que la réalité, c'est qu'on ne le sait pas. Là, tu sais, je sais que ça, c'est quelque chose qui fait peur quand on nomme ça aux gens. En même temps, c'est la meilleure façon d'assurer la sécurité immédiate de quelqu'un si on a vraiment une inquiétude pour sa sécurité. Puis quand on fait appel au service d'urgence qui arrive, ben c'est qu'il va avoir un agent qui va juste se présenter puis vérifier. Puis vérifier, c'est juste s'assurer qu'en effet, il n'y a pas comme d'inquiétude à avoir, là. Si l'agent juge, en effet, qu'avec la nature des propos qui ont été tenus, c'est nécessaire, bien, ça se peut que la personne, elle parle avec un intervenant de la ligne 1-866 appel pour voir, en effet, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en effet, tu as des idées suicidaires? Est-ce que il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Puis, est-ce qu'on peut te rattacher à des services aussi, là? Donc, ça, c'est un des exemples. Tu sais, si c'est quelqu'un qu'on connaît très bien puis qui dit juste « ces temps-ci, ça va vraiment pas bien. Je trouve ça plus difficile. J'essaie de garder ma tête hors de l'eau, mais je sais plus trop comment. » Tu sais, puis qu'on s'inquiète pas nécessairement parce qu'on au niveau du suicide, mais tu sais, on le sait qu'il vit quelque chose de difficile, ben dans ce cas-là, on peut essayer, tu sais, de rejoindre la personne puis lui dire « tu sais, j'ai vu ton message sur... les réseaux sociaux, est-ce que tu as envie d'en parler? Je suis là si jamais ça te tente. » Fait que c'est vraiment différent. Ultimement, ce que j'ai envie de dire, c'est si jamais on voit un appel à l'aide qui nous inquiète, si on a vraiment une inquiétude pour la sécurité immédiate de quelqu'un, c'est les services d'urgence. Si on n'est pas rendu là, ben on peut appeler la 1-866 appel pour voir avec l'intervenant qu'est-ce que lui suggère de faire dans cette situation-là.
Puis dans des situations, là, je réfléchis en même temps à voix haute, mais tu sais, quelqu'un qui aurait, qui serait malaisé de la réaction de la personne. Tu sais, disons, ah ben crime, j'ai fait venir les services d'urgence, puis après ça, elle va m'en vouloir, fait que je suis peut-être mieux de pas le faire, tu sais, ou qu'est-ce que je dois faire si après ça, elle veut plus me parler parce qu'elle est fâchée contre moi, ou tu sais, c'est quoi la meilleure pratique, disons, là?
OK. Ben ça dépend encore une fois tellement des situations parce qu'il y en a dans lesquelles est-ce que, je veux pas, j'ai travaillé sur la ligne d'intervention dans le temps qu'on en avait une chez Gévi, puis ça arrivait souvent ce discours-là de proche. Si on a quand même vraiment une inquiétude pour la sécurité, c'est toujours préférable d'appeler les services d'urgence. Moi, ce que je dis aux gens, c'est bien mieux qu'ils soient fâchés contre toi parce que tu as appelé les services d'urgence pour rien que finalement tu les aies pas appelés puis qu'ils se soient enlevé la vie. C'est vraiment mieux rendu là, puis tout s'explique. Ça s'explique, tu sais, puis quand les services d'urgence se déplacent parce qu'on a vraiment des inquiétudes qui sont bien fondées, là, tu sais, la personne a eu des propos quand même inquiétants, normalement, elle va être évaluée par un intervenant. Tu sais, les intervenants sont aussi qualifiés pour sensibiliser la personne à, ben si ton proche a appelé les services d'urgence, là, c'est parce qu'il tient à toi. Tu sais, il a pas fait ça pour te mettre dans le trouble, là, dans le fond, c'est... Personne ne fait ça pour mettre quelqu'un dans le
monde.
C'est vraiment parce qu'il s'inquiète. Puis c'est vrai que c'était préoccupant les propos que tu as tenus. T'sais. Fait que généralement, c'est plus de cet ordre-là ce qu'on dit là, aux gens.
Ça fait du sens. Ouais. En cas de doute, effectivement, on n'hésite pas. Puis, oui, c'est ça s'explique de dire, écoute, c'est aussi une forme de dire que tu vis quelque chose de difficile,
ouais.
Il y a des solutions. On est capable, on va pouvoir t'aider à passer au travers.
Ouais.
Puis, on va vers les bonnes ressources, puis on te donne du support. Fait que,
ouais.
Ça peut être aidant. Peut-être après coup, effectivement, il va peut-être être fâché, mais après réflexion, on va peut-être dire, hey, effectivement, c'était ouais. La porte qui me prenait. Là, pour.
Tout à fait. Puis, tu sais, encore une fois, j'ai envie de juste souligner que c'est quand même normal là, d'être stressé, tu sais, dans ce genre de situation-là. Tu sais, ultimement, si on s'inquiète, c'est qu'on tient la personne, puis on tient la relation aussi, tu sais, on veut pas la briser. Fait que c'est un stress qui est normal, c'est des inquiétudes qui sont normales. D'un autre côté, ben c'est ce qu'on dit, tu sais, si on a vraiment des inquiétudes, c'est mieux d'appeler les services d'urgence si on est vraiment inquiet. Si on n'est pas certain, à ce moment-là, on appelle 1-866 appel, puis eux, ils vont nous dire si ça vaut la peine d'appeler les services d'urgence.
Ouais. Parfait, merci.
Et puis j'ai envie de rajouter, tu sais, que l'idée, c'est de ne pas prendre de chance. Tu sais, si ça ne quitte pas ta tête, là, tu te dis « Ah non, je ne le ferai pas. » Mais que tu recontinues, ça revient, ça repop. « Ah ouais, mais là, mais si, tu sais.
Ouais. »
c'est clairement, c'est anxiogène, là, mais c'est mieux de le faire là, comme qu'on a nommé, puis qu'au pire que la personne soit un petit peu fâchée,
ouais.
que de prendre le risque, dans le fond.
Oui, puis tu sais, c'est qu'une fois que c'est fait, là, si la personne, elle est fâchée, ben et les proches peuvent encore une fois appeler sur la 866 appel ou peuvent faire une demande de suivi chez GV. Puis, tu sais, ça fait partie aussi de ce qu'on peut faire, de les outiller à faire un retour avec la personne qui est fâchée contre eux dans comment tu peux lui expliquer ce qui a motivé, tu sais, ta décision d'appeler les services d'urgence. Puis, mais c'est ça qui est plus. C'est ça qui est un petit peu plus fragile quand même dans le fait d'hésiter qu'on appelle les services d'urgence, c'est que la réalité, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur la réaction de l'autre personne. T'sais. On a juste du contrôle sur ce que nous, on décide de faire pour assurer sa sécurité.
Et quand on a un proche, justement, puis qu'on aurait besoin de conseils, est-ce que c'est le même principe qu'on vous appelle avec le numéro de Je vis, puis on laisse un message? C'est le même principe là, que si quelqu'un avait une demande d'aide pour elle-même.
Oui, le numéro de la ligne locale, là, 819-564-1354, c'est vraiment pour tout le monde qui veut faire une demande de service chez GEVI. C'est sûr que, tu sais, il faut quand même se demander, est-ce que j'ai besoin d'une réponse immédiate ou ça fait un bout que je suis dans une situation puis là, je ne sais plus trop comment faire pour aider mon proche qui a des idées suicidaires. Donc, si on a besoin d'une réponse immédiate, c'est mieux d'appeler sur la ligne, là, 1-866 appel, parce qu'eux, ils vont donner une réponse immédiate. Si on a vraiment envie d'avoir un suivi en face à face puis qu'on n'a pas besoin d'une réponse immédiate dans le moment. C'est correct à ce moment-là d'appeler chez GEVI, de laisser un message. Puis on peut faire les deux aussi, tu sais. On peut appeler la 1-866 appel, puis après ça, faire une demande de suivi chez GEVI. L'important, c'est que si on a besoin d'aide dans le moment, bien qu'on se permette d'appeler à la bonne place.
Ça me fait penser aussi parce qu'on parle de réseaux sociaux, de jeux vidéo, ces choses-là. Puis là, je réfléchis peut-être plus à la formation, effectivement, qu'on avait eue là, en comme 5-13 ans, je pense.
Ouais.
Puis, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose en prévention? Parce que nous, ce qu'on nous expliquait, c'est qu'effectivement, la conception de la mort n'est pas la même, tu sais, au niveau jeunesse qu'adulte, puis que ça peut être très flou, puis qu'on a tendance, puis, tu sais, moi, écoute, je réfléchis, puis je l'ai sûrement déjà fait à dire, ben écoute, tu sais, la personne est décédée, est allée au paradis, puis c'est beau, on va la revoir, tu peux lui parler. Fait que, tu sais, des fois, dans la conception de la mort qu'on transmet, ou dans les jeux vidéo, de dire que, tu sais, dans le jeu vidéo, t'as 9 vies aussi, fait que, tu sais, il peut t'arriver quelque chose, tomber en bas, puis le personnage dans le jeu vidéo fictif, dans le fond, décède, puis qu'il revient à la vie. Tu sais, y a-tu des choses qu'on peut faire en prévention? On parle pas nécessairement que la personne a des idées suicidaires, mais comme parent, comme proche, comme enseignant, ou comme personne d'entourage de jeunesse, pour essayer d'avoir une vraie conception aussi de ce que c'est que la mort, effectivement. C'est si on parle de passer à l'acte ou quoi, ben c'est définitif. Parce que ce que je comprenais, en tout cas, de 5-13 ans, c'est qu'effectivement, des fois, c'est ça, ils vont faire un geste qui est plus à risque en n'ayant pas nécessairement la conception que ça va être définitif.
Je vais essayer de répondre à ta question du mieux que je peux. J'ai envie de dire, ben, tu sais, pour tout ce qui est les jeux vidéo, ça sort un peu de ce que je connais, là, tu sais, de l'impact sur la conception de la mort. Ce que j'ai envie de dire, par exemple, c'est qu'en effet, bon, la conception de la mort, elle va être différente, puis ça va être quelque chose qui va se développer avec l'âge. Est-ce que pour prévenir, mettons, au niveau du suicide, on pourrait Vraiment une bonne question. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a des jeunes qui vont avoir des idées suicidaires sans nécessairement bien comprendre la mort, en effet. Puis que des fois, tu sais, je pense, mettons, tu sais, ça peut être un jeune de 6 ans qui dit, ben, bon, j'ai eu un conflit avec ma meilleure amie, donc je veux me tuer, mais qui comprend pas que quand on s'enlève la vie, ben, c'est pour toujours. Puis là, ben, j'ai déjà parlé, tu sais, avec des jeunes un peu dans ce genre de contexte-là, puis qui me dit, mais tu sais, si je me tue après ça, je vais pouvoir revenir, puis là, elle va comprendre que c'était pas correct, qu'est-ce qu'elle a fait, tu sais. Mais là, on est déjà dans un contexte de suicide dans ce cas-là, tu sais, fait que c'est plus facile. Je pense que j'ai pas de réponse pour
Ben, c'est
la
correct. Ben,
prévention.
la réponse est bonne aussi, effectivement, de dire là en contexte de suicide, mais c'est peut-être d'aller clarifier justement avec les personnes que c'est avec les jeunes, dans le fond, qu'effectivement, c'est pas quelque chose de temporaire. Là, si on, fait, dans l'expression, puis je pense qu'on a peut-être, on l'a peut-être abordé, c'est dans l'expression, justement, tu sais, comme tu nommais, je suis fâchée, je veux aller me suicider. Je suis en colère, ben, après, peut-être la prévention, c'est dans l'expression, c'est dans l'expression des émotions, de bien outiller, d'aller faire du cheminement avec ton enfant ou avec ton proche, de dire effectivement, tu sais, quand on a une émotion, voilà telle façon de bien l'exprimer. Puis la portée de nos mots, effectivement, si on nomme qu'on veut passer à l'acte, ben, c'est définitif, tu sais. La mort, ça revient pas. Fait que, de faire attention, peut-être dans les messages qu'on transmet de tu sais, justement, si la personne décide, elle décède, elle ne reviendra pas, on ne pourra pas. Là, puis après ça, on peut croire au paradis, on peut croire à peu importe notre croyance, mais qu'effectivement, on ne revient pas sur Terre après, là.
Mais c'est sûr que si on a un enfant qui a des propos suicidaires, tu sais, c'est important de clarifier puis de lui demander encore une fois, est-ce que tu dis ça parce que tu as l'intention de te tuer ou est-ce que c'est parce que tu penses à te tuer, là? C'est sûr qu'une fois que c'est fait, en effet, tu sais, nous, chez Jevi, on en fait des rencontres avec des enfants qui en ont des idées suicidaires ou des rencontres pour évaluer s'il y a présence d'idées suicidaires après avoir eu des comportements inquiétants, à risque ou des propos qui étaient inquiétants aussi. Donc, nous, c'est sûr que ce qu'on propose toujours aux parents et que nous-mêmes on fait, c'est de venir là, explorer, puis aussi d'explorer la conception de la mort, justement. Qu'est-ce qu'ils comprennent vraiment de la mort? En effet, généralement, là, la conception qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus jamais revenir, là, c'est à partir, il me semble, de 8 ans là, que ça s'installe. Avant ça, c'est des tendances générales. Là. Ça se peut, un jeune de 10 ans qui pense que si on s'enlève la vie, on peut revenir, c'est déjà arrivé. Et que c'est vraiment différent d'un enfant à l'autre, mais c'est d'aller l'explorer, puis c'est de lui expliquer aussi, en effet, comme tu as nommé. Une fois qu'on est mort, on ne peut plus jamais revenir. Puis souvent, ce qu'on dit, c'est pour ça que c'est important, quand tu vas pas bien, puis que tu as des idées suicidaires, de demander de l'aide. Parce qu'il y en a toujours des solutions, donc on veut mettre l'accent là-dessus. Puis on veut éviter que tu fasses ce geste-là, parce que si tu le fais, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pour toujours. Fait que viens nous en parler si ça l'arrive. On va trouver des solutions ensemble. On va trouver de l'aide aussi.
Ça répond à ma question. Oui,
Ça
c'est
répond
ça.
à ta question.
C'est plus ça que je voulais
Inquiétez-vous.
explorer, effectivement, là, parce que, tu sais, oui, puis, tu sais, on est en contexte de la personne a une détresse, l'enfant vit une détresse, tu sais, mais est-ce que maintenant, c'est ça, tu sais, on est en contexte suicidaire, mais qu'ils comprennent bien, parce que c'est ça que j'avais compris, là, c'est que c'est pas toujours, là, l'optique n'est pas de mettre fin à ces jours pour ne jamais revenir nécessairement, mais c'est que c'est leur conception de la mort qui est pas encore à point, disons, là.
Ça l'arrive, oui, c'est ça. Puis je trouve que tu l'as bien nommé aussi, tu sais, pour, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un enfant quand il vit de la détresse de sorte à ce qu'il ne se rende pas, mettons, à avoir des idées suicidaires? Bien, c'est sûr que, tu sais, d'outiller l'enfant à être capable de bien gérer ses émotions, c'est un bon outil à mettre dans son sac à dos, tu sais. C'est super important. Puis en effet, c'est une des choses que moi, mettons, j'ai observé en travaillant chez Jevi, qu'on observe encore dans les suivis avec les enfants, c'est que quand on a des suivis avec des enfants qui ont des idées suicidaires, la gestion des émotions, elle est difficile, là. La colère, quand elle prend de la place, c'est pas juste un peu, là, ça passe de 0 à 10 par moment, puis c'est que ça prend tellement de place, puis c'est tellement envahissant qu'ils savent pas comment gérer ça. C'est super souffrant, puis là, sur le coup, les idées suicidaires vont apparaître, par exemple. C'est là où, des fois, c'est un peu plus, je sais pas c'est quoi le mot, là, sensible, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, quand on a un enfant qui a de la difficulté à gérer ses émotions, puis que là, quand il est en colère, ses idées suicidaires apparaissent parce que c'est trop fort pour lui, puis c'est juste quand il est en colère qu'il y a des propos suicidaires, mais là, les parents, ils comprennent pas, puis ils voient ça, puis ils se disent, ben voyons donc, il dit ça pour manipuler, tu sais. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Fait que bref. C'était pour faire un petit jupon avec ce qu'on avait nommé tout à l'heure, là, mais oui, tu sais, d'apprendre à l'enfant à gérer ses émotions, exprimer ses besoins, respecter ses limites, demander de l'aide à un adulte quand il en a besoin. Tout ça, c'est des bons outils à mettre là, dans le sac à dos d'un enfant pour que si un jour il se rend finalement à avoir des idées suicidaires, au moins, il puisse demander de l'aide à quelqu'un puis qu'il sache comment bien l'exprimer.
Effectivement. Merci.
Puis, tu en as parlé un petit peu là, au niveau de de vos interventions auprès d'une personne à risque suicidaire, là, vous focussez surtout sur, mettons, les solutions. Tu sais, il n'y a pas de retour tout le temps sur comme c'est quoi tes pensées, c'est quoi. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu plus comment vous fonctionnez en gros là, quand quelqu'un vient vous voir? C'est quoi les techniques plus utilisées? Je comprends, c'est plus vers le positif, dans le fond, là. On se tourne vers le positif. Qu'est-ce qui s'en vient, t'sais, de nourrir l'espoir et tout ça? Là.
Mm-hmm. Ben, c'est sûr que dans un suivi chez GV avec une personne qui a des idées suicidaires et qui ne va pas bien, souvent les gens ils nous disent ben, j'ai pas envie d'aller voir un intervenant et de parler de ma vie, ben, je vais juste parler de ce qui va mal, puis ça ne va pas m'aider. Moi, la première chose que j'ai goût de dire, c'est pas vrai qu'on va juste parler de ce qui va mal, parce que c'est vrai que ça ne t'aidera pas. C'est sûr. Ventiler sur ce qui va pas bien. Si on ventile pendant une demi-heure, généralement, après, on va pas mieux qu'au début.
C'est ça. Ceci étant dit, ça peut faire du bien un minimum. Là, c'est juste exactement de ventiler. Mais là, si on en ressort puis c'est juste ça qu'on a jasé, je comprends. Là.
Oui, puis c'est principalement pour les personnes qui ont des idées suicidaires, on le recommande pas. Donc, nous, c'est sûr que l'approche qui est utilisée chez Jevi, là, mettons que je vois plus dans le concret, là, c'est l'approche orientée vers les solutions. Ça veut pas dire que la personne s'assoit dans notre bureau puis qu'on lui donne des solutions, c'est pas ça que ça veut dire. C'est plus qu'on va partir des ressources que la personne, elle a déjà, des forces qu'elle a déjà et de ce qu'elle a déjà réussi à faire par le passé pour se sortir de des difficultés.
Comme différents moyens, là.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as fait dans le passé quand que tu te sentais comme ça, quand tu te sentais pas bien?
Ouais.
Ah ben, j'aimais, je me mettais de la musique, là, puis j'allais prendre des marches.
Parce que ce qui arrive quand on a des idées suicidaires, c'est que c'est pas vrai que c'est le bon moment d'instaurer des nouvelles habitudes. On va pas bien, là, on peut pas s'en demander là, de faire des nouvelles choses. Fait qu'on va essayer de réutiliser le plus possible ce qui a déjà fonctionné dans le passé. Ça, c'est une des choses qu'on va faire avec la personne. On va essayer de la rattacher à l'aide qui est nécessaire aussi pour elle. Parce que, tu sais, oui, on est des intervenants en prévention de suicide en même temps. Ça reste que quand on en vient à avoir des idées suicidaires, c'est très multifactoriel. Fait que ça se peut bien que la personne ait besoin d'avoir des services ailleurs. Fait qu'on fait beaucoup là, de références, mais aussi du travail en collaboration avec d'autres intervenants dans le cadre des suivis. On va aussi beaucoup travailler sur la capacité à la personne de se projeter dans un futur qui en vaut la peine. Fait que c'est sûr qu'on va explorer avec elle c'est quoi qui est assez important pour elle pour continuer en vie, de vivre, excuse-moi. Tu sais, genre les raisons de vivre, par exemple, de cette personne-là. On va beaucoup passer de temps à explorer ça, ses projets, regarder comment est-ce qu'éventuellement elle peut se rendre à atteindre certains objectifs qu'elle aimerait retrouver dans son futur qui fera en sorte que ben ça, c'est un futur pour lequel ça vaut la peine de continuer à avancer. On est vraiment plus là-dedans dans nos suivis chez Jevi. C'est sûr que, tu sais, on laisse la place à ce que la personne puisse parler quand même de ce qui ne va pas, puis on est là pour l'entendre, on est là pour pas la juger, pour la comprendre, pour l'accueillir dans ce qu'elle vit. Puis à partir de ce qu'elle a, ben, on va essayer de construire sur le parfait, mais qu'est-ce que toi, tu veux qu'il change? Qu'est-ce que tu veux retrouver dans ta vie qu'il n'y a pas en ce moment? Tu sais, puis comment est-ce qu'on peut se rendre là éventuellement?
Mais c'est bien que tu expliques le plus en détail ce que vous faites. Puis moi, ça me fait penser aussi que, tu sais, moi, parfois, j'entends comme, hey, mais je veux pas trop en parler ou je sens des réticences à parler des idées suicidaires parce que je veux pas me rendre à l'hôpital.
Ouais.
Et tu sais, c'est pas, j'ai des idées suicidaires, je m'en vais à l'hôpital. C'est pas direct comme ça, là. Tu sais, il y a un cheminement, il y a des suivis, ouais. Tu sais. Puis quand on arrive à se rendre à l'hôpital, moi, ce que je leur disais, c'est, ben, si on juge que là, c'est l'hôpital que ça prend ou c'est un service de crise, ben, c'est pour ton mieux.
Ouais.
Puis c'est pas pour toute la vie, là, qu'on va à l'hôpital.
Non, en effet. Ben, tu sais, l'hôpital, en effet, c'est quelque chose qui fait beaucoup peur aux personnes quand ils ont des idées suicidaires. Puis, j'ai envie de dire, tu sais, dans les peu de fois où ça arrive où quelqu'un ne sera pas honnête quand au fait s'il y a des idées suicidaires, c'est souvent parce qu'il a peur qu'on l'envoie à l'hôpital. C'est la dernière solution. On n'a jamais le goût de se rendre là. Pour vrai, là, ça, c'est ce que je veux souligner. Ça me tente jamais d'envoyer quelqu'un à l'hôpital. Parce qu'on le sait que c'est difficile, parce que ultimement, c'est pas ce qu'on veut vraiment. Les raisons qui font en sorte que des fois, les gens, on va leur recommander à l'hôpital, d'aller à l'hôpital, c'est vraiment quand que leur souffrance est tellement grande qu'ils ne parviennent plus à se contrôler ou ils pensent qu'ils ne seront plus capables de se contrôler prochainement ou qu'ils ont l'intention de poser un geste. Puis que peu importe ce qu'on fait dans l'intervention, peu importe de quoi qu'on parle, ça ne change rien pantoute. Puis que la détresse, elle est aussi pire ou elle s'aggrave pendant l'intervention, mettons. Là. Puis que la personne, elle veut rien mettre en place pour se protéger, elle ne veut pas aller voir un proche. C'est quand on ne peut vraiment rien faire pour assurer la sécurité de quelqu'un, c'est sûr que là, en dernier recours, la solution pour assurer sa sécurité temporairement, ça serait l'hôpital. Mais c'est vraiment rare qu'on se rend là. Très, 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 très rare. Puis il y en a pour vrai quand même beaucoup de gens qui, à un moment donné, ils font comme pour vrai, là, En ce moment, la seule place qu'il faudrait que j'aille, c'est l'hôpital parce que je me fais pas confiance, t'sais. Puis ils vont, puis ils sont d'accord pour y aller. Puis t'sais, c'est rare qu'en plus, quand les gens se rendent à l'hôpital pour des idées suicidaires, ils restent super longtemps à l'hôpital. C'est vraiment le temps de contenir la crise, le temps que ça redescende. Puis une fois que c'est redescendu, puis que là, la personne a le moins le nez collé sur le mur, puis qu'on est plus capable de faire du travail avec elle, là, ben, elle va ressortir. Ouais.
Et ça me fait penser que, tu sais, il faut que la personne se connaisse bien, dans le fond, là, de connaître nos limites. Là, c'est sûr que nous, ici, en travaillant en santé mentale, on côtoie des gens qui en ont des idées suicidaires. Puis comme que tu disais aussi, là, plus tôt, que ça fluctue dans le temps. Il y a des moments où c'est plus intense, puis il y a des moments où ça va un peu mieux. Puis ça porte beaucoup dans la connaissance de soi. Puis j'ai quelqu'un en tête là, que... Il est capable de dire, OK, là, je dois aller à l'hôpital parce qu'en ce moment, je ne me sens pas en contrôle de moi-même. T'sais. Fait que ça part beaucoup de là, de la personne, du travail fait sur soi-même aussi, là.
Tout à fait. Puis ça fait partie des choses, c'est qu'on va travailler avec les gens de comprendre c'est quoi les indices qui leur indiquent qui pourraient entrer en crise. Puis aussi, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place avant, t'sais, pour éviter d'entrer en crise. Puis une fois que ça arrive finalement, puis qu'ils sont entrés en crise, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se protéger ou faire diminuer la souffrance? Tout ça, c'est des choses qu'on va travailler dans un suivi avec une personne qui a des idées suicidaires. Et qu'on est beaucoup aussi dans le comprendre comment tu fonctionnes, comprendre tes signaux, tes indices de détresse et tout ça, là, on est aussi axé là-dessus.
C'est ça, puis la gestion des émotions, puis tout ça. Bon, toi, tu sais que tes émotions sont plus intenses que peut-être la moyenne. Fait qu'il faut que tu fasses attention, il faut que tu t'écoutes. Tu le sais que si tu te sens trop fâché dans une certaine période de temps, ben là, tu sais qu'après une certaine échéance, là, tu perds le contrôle. Fait que c'est ça de s'apprendre, de mieux se
Exact.
connaître, là.
Oui, tout à fait. C'est vraiment bien dit.
Ben merci, Léonie. Est-ce qu'on avait d'autres
Merci.
questions?
J'ai aucune idée, ça fait combien de temps qu'on parle, mais je pense
Ça
que, en tout cas, je sais pas à quelle heure exactement qu'on a commencé, mais je pense
fait un petit
que
peu déjà, je
ça
pense qu'on
fait
a
le
fait.
tour.
Ben,
Ouais.
je pense, écoute, on a encore le temps. Moi, tant que c'est pertinent,
Ben,
on
je pense qu'on a fait le tour. Ben, je vois ici la Journée mondiale de la prévention du suicide, qui est le 10 septembre. Je sais pas si Jevy fait quelque chose de particulier ou en fait la Société de prévention du suicide du Québec, je sais pas là.
Ouais, ben je sais que nous, on a un comité chez Jevy qui s'occupe de cette journée-là en ce moment. Il me semble qu'il y a des activités en cours, mais c'est pas encore
Exactement, OK.
100% clair. Mais il me semble qu'ils ont commencé. Il me semble qu'ils ont fait une démarche là avec Arroche-moi un sourire. Je sais pas si vous connaissez ça.
Ouais,
Ouais, cool.
on l'a déjà fait ici là, dans une activité du milieu de vie. Ouais.
Fait qu'il y a probablement quelque chose qui va avoir un lien avec ça parce que l'autre jour, dans la salle de conférence en haut, il y avait des intervenants qui peinturaient
Et
les roches.
super. Est-ce qu'il y a encore les épinglettes?
C'est sûr. Ben, d'habitude, les épinglettes, là, on en a, mais là, je suis en train de me demander si les épinglettes, c'est pas plus dans la semaine de prévention du suicide, par
OK. Fait
exemple.
qu'un autre événement.
Ouais.
Mais je me rappelle que, tu sais, sans tant connaître le milieu communautaire ou, tu sais, étant plus jeune au secondaire, même au primaire, si je ne me trompe pas, les épinglettes, je vis. C'est un classique, là. Je suis sûr qu'en mentionnant ça, il y a des gens qui font comme, hey, je me rappelle au
Les
secondaire.
épingles à linge, genre, étaient importants pour
Oui.
moi, là. Ah oui,
Oui,
c'est
t'es
vraiment
important
cool.
pour moi. Écris j'ai vu de ça avec le numéro de téléphone, c'est parfait, là. Puis tu peux l'accrocher sur les gens, sur tes habits à l'école. Puis je trouve que c'est tellement de. Ce genre de semaine-là, ces journées-là servent à ça, de ben, mieux connaître les services, mais aussi juste de prendre un moment puis rappeler aux gens autour de nous qui sont importants pour nous. Là, des fois, ça fait toute la différence.
Oui, puis tu sais, en contexte de suicide ou pas, du suicidaire ou pas, là, de juste comme ouvrir la porte sur quelqu'un qui a l'air de pas bien aller, puis lui dire, hey, ça va-tu, toi, dernièrement,
Et c'est de
comment
la
tu vas?
prévention, ça, là,
Ben
dans le
oui, parce
fond.
qu'on l'apprécie,
Vraiment.
parce qu'on tient aux gens
Ouais.
autour de nous, puis de leur rappeler au
Ouais.
quotidien, c'est important, là, dans tous les cas, là.
Fait qu'en général, on en a parlé de prévention, là, ça, de dire aux gens autour de nous qui sont importants que leur présence fait une différence positive dans notre vie. Je pense que juste ça, c'est une prévention qu'on peut faire au quotidien sans que ce soit quelqu'un qui va pas bien ou qu'il y a un historique, là. Juste de se le rappeler, je pense que.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est tellement précieux de le dire à quelqu'un. Puis, tu sais, ce que j'observe depuis que je travaille chez Jevy, c'est que quand une personne a des idées suicidaires, ça vient beaucoup changer la façon qu'elle perçoit les choses, des fois. Hein? Puis, on en vient à percevoir les choses de façon pas toujours très, très juste. Puis, les personnes suicidaires, souvent, ils vont avoir l'impression qu'ils ne sont pas importants pour les gens autour d'eux. Puis que des fois, même, ça peut aller jusqu'à si je m'enlève la vie, tu sais, ça va être mieux pour tout le monde. Fait que de prendre le temps de dire aux gens autour de nous qui sont importants, c'est de la prévention, puis c'est vraiment précieux, c'est super important de le faire.
Hey, merci beaucoup.
Merci,
Merci à
Annie,
vous
d'avoir
de m'avoir
été.
invité.
Ben oui, mais on est vraiment contents, puis je pense que c'est pertinent là, d'en parler, puis de défaire les tabous, là, puis de,
Ouais.
n'importe par rapport à ça. Merci tout le monde de nous avoir écoutés ce matin encore. Je rappelle que si jamais il y a une difficulté que vous vivez, si vous ne sentez pas bien, si vous croyez qu'un proche ou vous-même, un jeune, pourrait vivre des idées suicidaires, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. C'est une crise qui est plus immédiate, ben on appelle le 811, un petit appel, puis on peut se rendre directement à l'hôpital aussi. Non, ben on peut faire une référence chez Je vis si jamais on a besoin de soutien ou de suivi.
N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça, puis ça nous fait plaisir de savoir que vous ne restez pas toute seule dans ce que vous vivez.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Pour réaliser un projet comme celui-ci, ça prend beaucoup plus que deux intervenants motivés. Ce projet a donc été réalisé sous la supervision de Marie-Michèle Grimard, de qui l'idée est née, et de Sylvie Kawaja, notre directrice, qui embarque dans les projets incroyables de ses intervenants. Merci à Enzo Marceau, spécialiste en aiguillage, captation audiovisuelle et en événements numériques, pour toute son aide et sa patience, sans qui nos talents d'animateurs n'auraient clairement pas été les mêmes. Annick Lebrun pour l'idée originale de nom qui a été choisie. Merci à tous les différents endroits qui nous ont accueillis pour faire la promotion du podcast. Et merci à tous les jeunes et moins jeunes qui ont participé de loin ou de près à ce que le podcast leur ressemble.
Ce projet est réalisé avec la contribution financière de la Caisse Desjardins des Sources.